Rachel. Dimanche 4 août 2013. Matin. Le cauchemar dont je me réveille ce matin est différent. Dans celui-là, j'ai fait quelque chose de mal. Mais je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que c'est irréparable. Tout ce que je sais, c'est que Tom me déteste. Qu'il ne veut plus me parler. Qu'il a raconté à tous les gens que je connais les choses terribles que j'ai faites. Et que maintenant, ils ont tous pris parti contre moi. Mes anciens collègues, mes amis, même ma mère. Ils m'observent avec dégoût, mépris. Et personne ne m'écoute, personne ne me laisse l'opportunité de dire à quel point je suis désolée. Je me sens affreusement mal, coupable, mais je suis incapable de retrouver ce que j'ai pu faire. Au réveil, je sais que ce rêve doit venir d'un ancien souvenir, d'une transgression passée, peu importe laquelle désormais. Hier, après être descendue du train, je suis restée dans les alentours de la gare pendant 15 bonnes minutes pour vérifier s'il était sorti du train avec moi, l'homme aux cheveux roux, mais je ne l'ai pas vu. Je n'arrêtais pas de penser que je l'avais sûrement manqué, qu'il était là, quelque part, à guetter le moment où je repartirais chez moi pour pouvoir me suivre. Je songeais à quel point j'aurais aimé pouvoir courir à la maison et que Tom soit là à m'attendre. Que quelqu'un soit là à m'attendre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée acheter du vin. Quand je suis rentrée, l'appartement était vide. Et j'ai eu le sentiment qu'on venait de le quitter, comme si j'avais failli croiser Cathy à quelques minutes près. Mais un petit mot sur le plan de travail m'annonçait qu'elle était sortie déjeuner avec Damien à Henley et qu'elle ne rentrerait pas avant dimanche soir. J'étais nerveuse, effrayée. Je me suis mise à passer de pièce en pièce pour prendre des objets puis les reposer. Quelque chose ne tournait pas rond, et j'ai fini par me rendre compte que c'était moi. La façon dont le silence résonnait dans mes oreilles ressemblait à des voix. Alors je me suis servi un verre de vin, puis un autre. Et j'ai téléphoné à Scott. Je suis tombée tout de suite sur sa messagerie. Une annonce venue d'une autre vie. La voix assurée d'un homme actif, avec une épouse magnifique qui l'attend à la maison. Après quelques minutes, j'ai rappelé. On a décroché, mais sans dire un mot. Allô ?
Qui est-ce ?
C'est Rachel. Rachel Watson.
Oh.
Du bruit derrière lui, des voix. Une femme. Sa mère, peut-être. « Vous, j'ai manqué votre appel, » ai-je ajouté.
« Non, non, je vous ai téléphoné ? Oh, par erreur. »
Il semblait agité.
« Non, mets-le là. »
Il m'a fallu un instant pour comprendre que ce n'était pas à moi qu'il s'adressait. « Je suis désolée, » ai-je repris.
« Oui. »
Il parlait d'un ton plat, égal. « Vraiment désolée. »
Merci.
Est-ce que vous aviez besoin de discuter ?
Non, j'ai dû vous appeler par erreur.
A-t-il répondu, avec plus de conviction cette fois. Oh ! Je sentais bien qu'il avait envie de raccrocher. Je savais que j'aurais dû le laisser à sa famille, à son chagrin. Je le savais, mais je n'en ai rien fait. Vous connaissez Anna ? Ai-je demandé. Anna Watson ?
Qui ça ? La femme de votre ex ?
Oui.
Non. Enfin, pas vraiment. Megan a fait un peu de babysitting pour elle, l'an dernier. Pourquoi vous me demandez ça ?
Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça. Je ne sais pas. Pourrait-on se voir ? Ai-je encore dit. Je voudrais vous parler de quelque chose.
De quoi ?
A-t-il dit, agacé.
Ce n'est pas le moment idéal.
Blessé par son sarcasme, je m'apprêtais à raccrocher quand il a repris.
La maison ne désemplit pas pour l'instant. Demain ? Passez chez moi demain après-midi.
Soir. Il s'est coupé en se rasant. Il a du sang sur la joue et le col. Il a les cheveux mouillés et sent le savon et l'après-rasage. Il me salue d'un hochement de tête et me fait signe d'entrer, mais il ne prononce pas un mot. Dans la maison plongée dans l'obscurité, il fait chaud. Les volets sont fermés dans le salon et les rideaux sont tirés devant les portes-fenêtres qui mènent au jardin. Il y a des Tupperware entassés partout dans la cuisine. Tout le monde m'apporte à manger, explique Scott. Il m'indique une chaise pour que je m'assoie à la table, mais lui reste debout, les bras ballants. Vous vouliez me dire quelque chose ? Il est en pilotage automatique. Il ne me regarde pas dans les yeux. Abattu. Je voulais vous parler d'Anna Watson. De... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous savez de sa relation avec Meghan ? Est-ce qu'elle s'appréciait ? Il fronce les sourcils, pose les mains sur le dossier de la chaise devant lui. Non. Je veux dire, ce n'est pas qu'elle ne s'appréciait pas, mais elle ne se connaissait pas très bien. Elle n'avait pas de relation. Ses épaules semblent s'affaisser encore plus. Il est épuisé. Pourquoi vous me posez ces questions ? Il faut que je lui avoue. Je l'ai vue. Je crois que je l'ai vue. À la sortie du passage souterrain, près de la gare. Je l'ai vue ce soir-là, le soir où Meghan a disparu. Il secoue légèrement la tête comme pour comprendre ce que je viens de dire. Pardon ? Vous l'avez vue ? Vous étiez... Où étiez-vous ? J'étais là. J'allais voir Tom, mon ex-mari, mais je... Il ferme les yeux et se frotte le front. Attendez une minute. Vous étiez là et vous avez vu Anna Watson ? Et... Je sais qu'Anna était là. Elle habite à quelques maisons d'ici et elle a dit à la police qu'elle était allée à la gare vers 19h, mais qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu Meghan. Ses mains agrippent le dossier et je sens qu'il est en train de perdre patience. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
J'avais bu, je réponds, le visage rougissant d'une honte familière. Je ne me rappelle pas tout, mais j'ai la sensation que...
Scott lève une main. Ça suffit. Je n'ai pas envie d'entendre la suite. Vous avez un problème avec votre ex, avec la nouvelle femme de votre ex, c'est clair. Et ça n'a rien à voir avec moi, ni avec Meghan, pas vrai ? Bon Dieu, et vous n'avez pas honte ? Vous savez que la police m'a encore interrogé ce matin, au poste ?
Il appuie si fort sur la chaise que je crains qu'elle ne se brise, et je me prépare au craquement.
Et vous ? Vous venez me raconter vos conneries ? Je suis désolée que votre vie soit une telle merde, mais croyez-moi, à côté de la mienne, c'est une partie de plaisir. Alors si ça ne vous ennuie pas...
Et d'un mouvement sec de la tête, il me désigne la porte d'entrée. Je me lève. Je me sens bête, ridicule. Et oui, j'ai honte.
Je voulais juste vous aider. Je voulais...
Vous ne pouvez rien faire, d'accord ?
Rien. Personne ne peut m'aider. Ma femme est morte, et la police pense que je l'ai tuée.
Sa voix enfle, et des taches de couleur apparaissent sur ses joues.
Ils pensent que je l'ai tuée.
Mais Kamal abdique. La chaise heurte le mur de la cuisine si fort qu'un des pieds vole en éclats. Effrayée, je bondis en arrière, mais Scott a à peine bougé. Ses bras ont repris leur place le long de son corps, les poings serrés. Je distingue les veines sous sa peau.
Kamal abdique, répond-il entre ses dents, n'est plus considéré comme un suspect.
Bien qu'il parle d'un ton égal, je vois qu'il lutte pour se contenir. Je sens la colère vibrer dans tout son corps. Je voudrais me diriger vers la porte, mais il se tient entre elle et moi, et il bloque le peu de lumière qui entre dans la pièce.
Vous savez ce qu'il leur a dit ?
Demande-t-il, alors qu'il se retourne pour ramasser la chaise. Bien sûr que non, je songe. Mais une nouvelle fois, je me rends compte que ce n'est pas vraiment à moi qu'il parle.
Kamal a plein d'histoires à raconter. Kamal a dit que Meghan était malheureuse. Que j'étais un mari jaloux qui la gardait sous sa coupe, que je... Comment il a tourné ça au fait ? Ah oui, que j'exerçais une violence psychologique sur Meghan.
Il crache ses mots d'un air dégoûté.
Kamal dit que Meghan avait peur de moi.
Mais il est...
Et ce n'est pas le seul. Sa copine, là, Tara, elle a dit à la police que Meghan lui demandait parfois de la couvrir, que Meghan voulait qu'elle me mente au sujet de l'endroit où elle se trouvait, de ce qu'elle faisait.
Il repose la chaise à sa place devant la table, mais elle tombe. Je fais un pas vers l'entrée, mais soudain, il me regarde.
« Je suis un homme coupable, » dit-il, le visage pétri d'angoisse. « Je suis pratiquement déjà condamné. »
Il donne un coup de pied dans la chaise cassée et s'assoit sur une des trois restantes. Je reste debout, hésitante. Me taire ou relancer? Il reprend la parole, la voix si basse que je peux à peine l'entendre. Elle avait son téléphone dans sa poche. Je m'approche de lui. Il y avait un message dedans, que je lui avais écrit. La dernière chose que je lui aurais dite, les derniers mots qu'elle aura lus, c'était « Va te faire foutre avec tes mensonges, salope !» Il laisse retomber son menton sur sa poitrine et ses épaules commencent à se soulever. Je suis assez près pour le toucher. Je lève une main et, tremblante, je pose doucement les doigts sur sa nuque. Il ne se dégage pas. « Je suis désolée, » dis-je. Et c'est sincère. Car si je suis choquée par ces mots, choquée d'imaginer qu'il a pu lui parler ainsi, je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un et de malgré tout lui dire des choses terribles, dans un accès de colère ou d'angoisse. « Un texto, » dis-je, « ce n'est pas suffisant. Si c'est tout ce qu'ils ont,
mais ce n'est pas tout, pas vrai. »
Il se redresse et se débarrasse de ma main d'un mouvement d'épaule. Je refais le tour de la table pour me rasseoir en face de lui. Il ne me regarde pas.
« J'ai un mobile. Je ne me suis pas comportée. Je n'ai pas réagi de la bonne manière quand elle est partie. Je n'ai pas paniqué assez tôt. Je ne l'ai pas appelée assez vite. »
Il a un rire amer. D'après Kamal Abdik, je présentais les signes avant-coureurs d'un mari violent. C'est à ce moment qu'il lève les yeux, qu'il me voit, et qu'une lueur apparaît, un espoir.
Vous pouvez parler à la police. Leur dire que c'est un mensonge, qu'il ment. Vous pouvez au moins donner un autre point de vue, leur dire que je l'aimais, que nous étions heureux.
Je sens une vague de panique m'envahir. Il pense que je peux l'aider, il place ses espoirs en moi, et tout ce que j'ai à lui offrir, c'est un mensonge, rien qu'une saleté de mensonge.
« On ne me croira pas, » dis-je faiblement. « On ne me croit pas. Je ne suis pas un témoin fiable. »
Le silence entre nous enfle et emplit la pièce. Une mouche furibonde vole contre les portes-fenêtres. Scott tripote la petite croûte de sang sur sa joue. J'entends ses ongles gratter sa peau. Je repousse ma chaise. Les pieds crissent sur le carrelage et il me regarde.
« Vous étiez là, » dit-il.
Comme si l'information que je lui ai donnée il y a un quart d'heure venait seulement d'arriver à son cerveau. Vous étiez à Whitney le soir de la disparition de Meghan? Sa voix peine à passer par-dessus le vacarme du sang qui tape contre mes tempes. J'acquiesce.
Pourquoi vous ne l'avez pas dit à la police?
Sa mâchoire se remet à tressauter. Ils le savent, je le leur ai dit. Mais je n'étais pas... Je n'ai rien vu, je ne me souviens de rien. Il se lève et se dirige vers les portes-fenêtres pour ouvrir les rideaux. La lumière du soleil est aveuglante. Scott me tourne le dos, les bras croisés.
« Vous étiez ivre, » reprend-il d'un ton détaché. « Mais vous devez bien vous souvenir de quelque chose, forcément. Et c'est pour ça que vous revenez sans cesse ici, n'est-ce pas ?»
Il se retourne pour me faire face.
« C'est ça, non ? La raison pour laquelle vous n'arrêtez pas de me contacter, vous savez quelque chose. »
Il prononce ces derniers mots comme un fait, pas une question, ni une accusation, ni une théorie.
« Est-ce que vous avez aperçu sa voiture ?» demande-t-il alors. « Une Opel Corsa bleue, vous l'avez vue ?»
Je secoue la tête et il lève les bras au ciel, frustré.
« Pas si vite. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez vu ?»«
Vous avez vu Anna Watson, mais ça ne veut rien dire. Vous avez vu...
Allez ! Qui avez-vous vu ? »
Je cligne des yeux, ébloui par le soleil, et je tâche désespérément de remettre les morceaux du puzzle en place. Mais rien ne me revient. Rien de réel, rien qui puisse aider, rien que je puisse énoncer à voix haute. Je me suis disputée, ou peut-être que j'ai été témoin d'une dispute. J'ai glissé sur les marches de la gare, et un homme aux cheveux roux m'a relevé. Je crois qu'il a été gentil avec moi, mais maintenant j'ai peur quand je pense à lui. Je sais que je me suis ouvert le front, que j'avais une coupure sur la lèvre et des bleus sur les bras. Je crois me souvenir que je suis allée dans le passage souterrain, Il y faisait sombre. J'étais effrayée, perdue. J'ai entendu des voix. J'ai entendu quelqu'un appeler Mégane. Non, ça c'était un rêve. Ce n'était pas réel. Je me souviens du sang. Du sang sur ma tête, du sang sur mes mains. Je me souviens d'Anna. Je ne me souviens pas de Tom. Je ne me souviens ni de Kamal, ni de Scott, ni de Mégane. Il m'observe et attend que j'aie quelque chose à dire, une miette de réconfort à lui jeter, mais je n'ai rien. « Ce soir-là, » ajoute-t-il, « le moment clé. » Il se rassoit à la table, plus près de moi, dos à la fenêtre. Je distingue une fine pellicule de transpiration sur son front et sa lèvre supérieure, et il frissonne, comme s'il avait de la fièvre. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. La police pense que c'était à ce moment-là. Ils n'ont pas les moyens d'en être sûrs. Sa voix s'éteint, puis il reprend. Ils n'ont pas les moyens d'en être sûrs, à cause de l'état du corps. Il prend une grande inspiration. Mais il pense que ça a eu lieu ce soir-là, ou à peu près. Il est de nouveau en pilotage automatique, à parler à la pièce comme si je n'étais pas là. J'écoute en silence tandis qu'il explique la cause du décès. Un traumatisme crânien. Son crâne a été fracturé en divers endroits. Pas d'agression sexuelle. En tout cas, ils n'ont pas pu le déceler avec certitude, compte tenu de l'état dans lequel on l'a retrouvé. Trop abîmé. Quand il revient à lui, à moi, c'est la peur que je lis dans ses yeux, le désespoir. Si vous vous rappelez quoi que ce soit, il faut me le dire. Essayez de vous souvenir, Rachel, s'il vous plaît. Entendre mon nom franchir ses lèvres me retourne l'estomac. Je me sens terriblement mal. Dans le train, sur le chemin du retour, je repense à ce qu'il a dit et je me demande si c'est vrai. Est-ce que la raison pour laquelle je n'arrive pas à abandonner cette histoire est quelque part dans ma tête? Y aurait-il une information que j'ai désespérément besoin de transmettre? Je sais que je ressens quelque chose pour lui, quelque chose que je ne peux pas nommer et que je ne devrais pas ressentir. Mais est-ce qu'il y aurait plus? S'il y a quelque chose dans ma tête, alors peut-être que quelqu'un peut m'aider à l'en faire sortir. Quelqu'un comme un psychiatre, un psychologue. Quelqu'un comme Kamal Abdik.